Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Mm. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur.
Tant pis.
Bienvenue dans l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. Nous sommes très heureux de passer ce réveillon de Noël en votre compagnie. Alors à tous, du fond du cœur, joyeux Noël !
Ouais ! Olivier
est déjà bourré !
Comme en 2019, nous avons décidé de clore cette magnifique année 2020 bien accompagné avec quelques grandes voix du sport. Nous avions eu le plaisir l'année dernière d'entendre Eugène Saccomanno, Nelson Montfort, Georges Eddy, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, que du beau monde au micro de PO. Mais bien d'autres ont marqué de leur voix l'histoire du sport, nous ont fait vibrer, rêver, pleurer, et il est temps de leur rendre hommage en attendant que l'équipe de PO rentre à son tour au panthéon des grandes voix du sport. Allez, je veux entendre vos belles voix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir, bonsoir à tous et joyeux Noël.
Bonsoir
Noël.
Younes.
Bonsoir à tous et joyeux Noël.
Bonsoir Thibaut.
Bonsoir Sarah, bonne année.
Oui, pas tout de suite, encore quelques jours.
Ouais, ça porte malheur.
De toute façon, on est en septembre.
Et bonsoir Chloé.
Moi, je crois plus au Père Noël, hein, faut arrêter avec ça.
Bon, eh bien écoutez, en
sympa.
Tout cas, avant de commencer, je voulais qu'on écoute un petit extrait tous ensemble qui va vous rappeler d'excellents souvenirs.
Lovely, lovely talking to you. Maybe
same
I just want you to know because we covered all with between Antenne 2 and FR3, we covered the whole tournament.
And
this
oui,
is FR3, the little badge FR3. Hey,
est-ce qu'elle peut le mettre en direct?
Give you a rendez-vous
next
year.
Est-ce qu'elle peut le mettre en direct?
On donne le petit. Oui,
oui.
Maybe you can put it on.
Yes,
yeah,
of course.
Yes.
Régis
Forissier.
Yes. Attention de ne pas vous piquer.
Attention, ça pique.
Voilà.
There we go. C'est le petit badge FR3, Michel.
Magnifique, excellente idée Nelson, bravo.
Oh, there we go.
Super, okay. Regardez cette image magnifique, FR3 et Monica Seles.
Ah là là, des beaux souvenirs.
Des bons souvenirs.
Alors,
Le badge France 3.
Monica
Seles, je sais pas qui.
Alors, elle aurait changé toutes ses médailles pour garder le pin FR3.
Bien sûr, ouais. Nelson Montfort qui offre à Monica Seles, ému, le petit pin France 3.
On embrasse Nelson, on embrasse Monica et on embrasse évidemment le petit pin FR3.
Eh bien oui, bien sûr. Et pour commencer, je vais me tourner vers Olivier qui va nous parler d'un commentateur sportif qui a énormément de points communs avec moi.
Je vais parler d'Éric Zemmour.
Bravo. Bravo, bravo.
Non je sais pas quel sport il commente celui-là,
Mais alors,
le racisme. C'est un sport à part entière.
Bon, on est dans une émission politique.
Excusez-moi, vous réagissez, comme dirait l'autre.
Pique et polémique.
Il est né la même année que ma maman.
C'est pas vrai.
Et oui, dans 1912. Dans la ville de mon enfance, Saint-Germain-en-Laye. Coïncidence, je ne crois pas. Alors Olivier, qui as-tu choisi pour cet épisode ?
Eh bien d'abord, j'ai choisi une date. Nous sommes le 26 mars 2008. L'air est un peu frais, l'ambiance morose et grise. C'est normal, vous me direz, nous sommes au Stade de France. J'y suis avec un pote, Thomas, que je salue. Bonjour Thomas.
Salut Thomas, on t'aime.
Pour voir un amical, match amical, France-Angleterre, de préparation pour l'Euro 2008. Ça va pas être une régalade, hein, l'Euro 2008. Hein, comme vous le savez peut-être, vous avez peut-être écouté nos émissions avant, Sir Domenech. Pas grand-chose à dire de ce match. Hein. Les Français chantent aux Anglais, on est à l'Euro. Les Anglais qui n'y sont pas chantent, oui, mais nous, on a des supporters. sur le terrain, il y a Anelka, il y a François Clair aussi, tout à fait. Ah. Et il y a la 100e sélection de David Beckham. Tu connais David Beckham, Game Chloé, ça te dit quelque chose ?
Je ne crois plus non plus à David Beckham.
Ouais. C'est le mari de Victoria, non ?
Oui, c'est ça, tout à fait.
C'est surtout un ancien ministre des Sports.
tout le monde, de toute façon, tout le monde s'en tamponne car les pensées sont ailleurs, vers un absent, vers la voix dont je vais parler, vers l'homme dont je vais parler. La veille, le 25 mars, Thierry Gilardi nous a quittés.
Il est allé où ?
Il est allé rejoindre Maradona, Papé, Bouba Diop.
Ah non, il a pas rejoint Maradona.
C'est Maradona qui l'a rejoint.
Me faites pas chier, commencez pas. Hein, laissez-moi faire ma chronique.
Oui.
La 31e minute de jeu, d'ailleurs, Ribéry marque le seul but du match sur penalty. Il enlève son maillot et il rend hommage à Gilardi. Son nom était écrit dessus. D'ailleurs, il prendra un carton jaune.
J'avais pas prévu de pleurer ce soir, mais il va me faire pleurer.
Quand j'y pense, j'aimerais retrouver cet arbitre, Monsieur Meyer, en l'occurrence, car on n'a pas le droit de sanctionner un homme qui rend hommage à Thierry Gilardi. Alors, Thierry Gilardi, c'était quelque chose. Sa voix chaude, éraillée, réconfortante et associée à tellement de bons moments. Il a été donc victime d'une crise cardiaque le 25 mars 2008 et il nous manque énormément tant il était devenu la voix incontournable du paysage footballistique français. Et alors, ce qui est rigolo avec Thierry Jardy, c'est qu'on associe sa voix au foot alors que lui est un grand fan
de rugby.
Tout à fait, le football c'est mon métier, le rugby c'est ma passion. C'est comme le quintet.
Alors, avec Omar Sherif.
Il faut dire que le petit Thierry, il en a fait du rugby en club. Alors je sais pas s'il jouait comme toi, pilier, en tout cas Younes. Mais
pilier de barre.
J'ai pas osé.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il a fait le bonheur de sa ville. Donc tu l'as dit tout à l'heure, Saint-Germain-en-Laye. Il a fait du rugby pendant longtemps.
Très belle ville. Très jolie ville, un peu bourgeoise, hein, mais, oui, mais très belle ville quand même.
T'exagères.
Moi, je, pas du tout, Saint-Germain.
Du coup, moi, j'aime bien parce que j'aime Sarah.
Ben voilà.
Ben moi, j'aime Sarah, mais je déteste Saint-Germain-en-Laye. Et d'ailleurs, toi, je t'aime pas non plus, Thibaut. Allez, bon.
Thibaut, tu reviendras et pas Olivier, comme d'hab.
Coupe-lui le micro.
Je me mets auto-mute. Du coup, la passion du rugby ne s'arrête pas là, parce qu'en 97, il devient vice-président du Stade français, figurez-vous. Et oui, et d'ailleurs, une tribune au Stade Jean-Bouin porte son nom. C'est donc un bonheur pour lui, on l'imagine. Quand on parlait de ses années foot, il aura la possibilité de commenter du rugby pour TF1. Il formera notamment pendant la Coupe du Monde un duo remarqué avec Thierry Lacroix, dont on ne sait pas s'il est catholique, pratiquant, mais en tout cas, c'est un ancien joueur de rugby.
C'est la croix et la bannière.
Oui, tout à fait. Ça lave plus grand. Bon, bref. Cette Coupe du Monde, vous vous souvenez, c'était 2007. C'était un quart de finale historique entre les Français et les All Blacks, historique parce qu'on va gagner. Pourtant, on est mené 13-3 à la mi-temps. La France renverse la vapeur, mène 20-18 à quelques secondes de la fin. La suite, ce sont les deux Thierry qui nous la racontent.
À une poignée de secondes du bonheur, l'équipe de France avec Yannick Nyonga. Loin le renvoi Frédéric Michalak, mais ça n'est pas fini avec un Mako, ça n'est jamais fini.
Bacal de Chabal,
Léonard,
allez,
McAllister, McDonald, ne pas lui laisser prendre l'intervalle, le prendre, c'est ce que fait Josion. Les bloquer là, pas faire de faute.
Il faut aller les chercher.
Léonard pour McAllister qui allonge sa passe sur Moliana.
Il faut
plaquer Sébastien Chabal. Voilà, ils sont dans la moitié de terrain.
Il est chez nous. Il est chez nous, monsieur l'arbitre, il la garde. Lâchez-la.
Elle est là, la balle.
Non.
Ah, et le ballon qui revient aux Néo-Zélandais. Avec McAllister. Lui, c'est un danger. Hein. Soyalo, pris par Rinordoki. Léonard.
Le ballon.
Avec Or, maintenant. Ouais, il est là, le ballon. Elissal. C'est fini. Il faut aller jouer en touche, Jean-Baptiste. C'est ce qu'il fait. La France est en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. La France jouera contre l'Angleterre samedi prochain au Stade de France. La désolation du côté de Graham Henry. La joie d'Imanol Arinordoki, de Rougerie, d'Evance, de Dominici. Quel exploit viennent de réussir les Français après 7 défaites consécutives contre les Blacks. Ils les éliminent en quart de finale de la Coupe du Monde. Eh ben c'est génial. Quel exploit.
Quel
exploit, c'est génial. Tout ça pour perdre sans se battre contre les Anglais en demi-finale.
Je
rigole, j'adore. Et vous avez senti sa voix réconfortante. Elle est c'est incroyable.
Moi, j'ai pas bien entendu.
Dans cet exploit, un autre disparu trop tôt, Christophe Dominici.
Dominici. C'est trop triste.
Moi, ça m'a beaucoup bouleversé cette disparition aussi. Dominici et Gilardi qui avaient en commun d'être énormément aimés par tout le monde et notamment les joueurs. Fabien Galthié, ancien joueur, ancien sélectionneur, raconte que lorsqu'il était joueur, lors d'une tournée aux États-Unis, Thierry Gilardi, qui couvrait alors l'événement pour Canal+, s'était blessé à la cuisse parce qu'il s'était, il avait été projeté par les joueurs pour rigoler. Voilà. en fait, voilà, Gilardi vivait avec les joueurs. Il participait au troisième mi-temps qui, en plus, à l'époque au rugby, était très intense.
C'est toujours pas mal.
Et les joueurs,
c'est quoi la troisième mi-temps?
C'est ce que tu fais très souvent. Tu es très très forte en troisième mi-temps. Alors c'est, même si tu sais pas ce que c'est, sache que tu excelles.
Et tu fais rarement les deux premières, ça. Ouais. C'est tout le problème.
Qu'est-ce que je voulais? Oui, donc rugby ou foot, il était adoré par les joueurs, par sa gentillesse, par son professionnalisme. Il avait réussi à mettre tout le monde dans sa poche. Preuve de cela, je vous laisse écouter.
Il avait une grande poche.
Il avait une énorme poche. Bah, c'était un kangourou en fait.
Ah oui, d'accord.
C'était Thierry Jean, il était un kangourou. Je vous laisse écouter un hommage des joueurs de l'équipe de France de football. Alors vous allez voir la façon de parler. Le but du jeu, c'est d'essayer d'en reconnaître le plus possible.
Ah, ok. Je suis fort à ça. Allez.
C'est tout de suite.
C'était le lien entre l'équipe de France et les supporters.
C'était vraiment un personnage et il était attachant.
On perd vraiment de la joie en perdant Thierry Girardi.
C'était la voix du foot et la voix de l'équipe des matchs de l'équipe de France.
Rien que de parler de lui, on a encore sa voix qui résonne dans les têtes.
C'était un supporter, il aimait l'équipe nationale.
Quelque part, pas besoin de regarder le match. Rien qu'à sa voix, vous savez s'il faut jeter un œil dessus ou pas. Quoi.
C'est un grand monsieur du football qu'on a perdu. Quelqu'un de très respecté et de respectueux. Les mots me manquent, franchement.
C'était vraiment la personne qui berçait ma génération, les générations d'avant, les générations qui allaient arriver.
Lorsqu'on revoit, on dirait que l'accent n'est plus la même. Il a vraiment embelli l'accent et j'en garde un souvenir fabuleux parce que c'est notre premier match et lui, il a rendu ça fantastique.
Quand il y avait un joueur qui ne faisait pas un bon match, il n'avait pas un mot plus haut que l'autre, voilà, pour tailler le joueur, comme on dit.
Il a toujours cru en moi et c'est l'un des rares dans dans le métier.
Qui est au même niveau que Zinedine Zidane, Thierry Henry, toutes ces personnes-là qui nous ont fait rêver.
Il prenait beaucoup de plaisir à parler de moi, à faire voir ce que je faisais sur le terrain.
Il est arrivé au top de son métier et il aimait son métier et encore plus l'équipe de France. Donc.
On va tous se battre et essayer de remporter l'Euro pour lui.
Je pense que ce serait la meilleure des choses qu'on pourrait faire. Pour lui et pour le football français, parce qu'il reste quand même l'emblème du football français.
Alors, spoiler, ils ne vont pas se battre beaucoup. Ouais,
hein. Parce qu'il n'aimait pas tant que ça.
Sauf que c'est quand même insensé, on n'a jamais vu ça de mémoire, enfin même avec Thierry Roland, je crois.
L'unanimité.
Autant de l'unanimité chez les joueurs. Enfin, là, on a quand même du Anelka, du Ribéry.
Bah, je croyais qu'on devait deviner.
Bah oui, alors, laisse-nous deviner.
Oh, très bien. Alors, il y a qui?
Il y a Evra.
Du Anelka,
Nasri, Cissé.
Il y a Nasri, il y a Cissé.
Patrice Evra.
Il n'y a pas David Beckham, il n'y a pas Marc Marquez.
Il n'y a pas Evra, effectivement, qui était le premier à intervenir.
Il y a
Patrice
Evra. Le premier, c'est Vieira.
Ah, Vieira.
Non, il est plus tard.
Vieira, il arrive un peu après. Il y a Boumsong. Il y a Barthez. Il y a
Jean-Alain Boumsong, ouais.
Voilà, il y a Eric Zemmour. Non, ils sont tous là. Max Gazzini, le président du Stade français, disait que c'était quelqu'un de passionné, profondément droit et gentil. Il avait des convictions, un savoir-faire. Bref, il faisait l'unanimité. Tout le monde était bouleversé à sa mort. Moi, je me souviens, je voulais vous en mettre un extrait, mais déjà, je ne voulais pas que ce soit trop tire-larme. Deux, je ne l'ai pas trouvé.
et aussi, on avait le droit qu'à quatre extraits. Et aussi, on avait
Donc ça veut dire qu'il y en a encore deux autres derrière. C'était le Grand Journal, c'est Denisot qui présente le Grand Journal. Il y a un petit encart avec une vidéo de Thierry Girardi. Denisot présente le journal, il n'y arrive pas, le Grand Journal. Il demande à Bietri, Charles Bietri à ses côtés, de finir. Lui non plus n'y arrive pas. Et t'as Nathalie Aneta
actuellement à téléphone.
Girardi a formé. Ouais. En fait, Girardi, c'était un exemple de par son professionnalisme et un mentor pour beaucoup, Brognard, Yaneta, etc. Donc beaucoup,
c'était une sacrée école. En
beaucoup
fait.
Lui ont rendu un hommage comme il se devait. Girardi, donc c'est un gros bosseur. Il a fait, il était un peu touche à tout. Non, il a fait Sciences Po, figurez-vous. Ah. Après Sciences Po, il commence sa carrière à Inter, France Inter en 82, sous la houlette d'Arlette Chabot, la journaliste préférée des Sevaux, technique celle-là. Ouais. Il bossera un an à la communication de la Fnac et il fera même des matinales. pour Canal+, et même en LCI avec Mélissa Thurio, figurez-vous. Qu'on embrasse.
Après bien la sûr. FNAC, tout ça. Oui.
Mais c'est vraiment le sport qui le fera rentrer dans la légende. Canal+, d'abord, il va travailler plus de 15 ans. Il commence par la F1 avec Patrick Tambay, la chemise. Puis le foot s'impose très vite à lui. Jour de foot, l'équipe du dimanche, la Ligue des champions avec Platini. Il devient même rédacteur en chef du service des sports et directeur de la rédaction des sports de Canal+. Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai bloqué.
Tout va bien.
Sauf qu'en 2004... Il y a un énorme mercato des commentateurs. Et le voici qui débarque pour quelques centaines de millions d'euros, non, c'est pas vrai,
les
à
chaises.
TF1 en remplacement de l'iconique Thierry Roland. Alors, c'est Paris complètement insensé. Hein. Là, il se met en dehors de son petit.
Zone de confort.
Sa petite zone de
petit
confort,
jardin.
Tout à fait.
Ouais.
Et il va former un. Il va pourtant.
Petite boîte verte.
Ouais, on continue encore. Allez-y. Peut-être Chloé, Sarah, une expression pour dire zone de confort, non ?
Canapé.
Ouais, ok, ok. Un fauteuil en cuir, un petit peu, voilà.
Un sofa.
Un sofa, très bien.
Alors, un lit très douillet avec des gros coussins. <Ouais. rire>
Donc, il forme un duo magnifique avec l'Arqué, même. Un trio, parce qu'il y a Arsène Wenger qui de temps en temps place des oui bien sentis quand il faut. Arsène, comment vous allez?
Oui.
Mais vous êtes très très heureux là.
Oui.
Oui.
Et alors Arsène, il s'est joué des deux pieds?
Oui.
Ensemble, ils couvrent la Coupe du Monde 2006, bien sûr. Qui dit Coupe du Monde 2006 dit que je ne voulais pas parler de Thierry Gilardi sans évoquer le coup de boule de Zizou qui nous fait encore mal au ventre. On l'écoute un tout petit peu.
Il est avec Buffon, tiens. On voit Zizou. Oh Zinedine, là, pas ça,
pas du tout avec
pas ça Zinedine, oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait, aïe.
Ouais, bon, on arrête tout de suite parce qu'on n'est pas là pour souffrir, c'est Noël, merde, ok. Moi, je veux une Coupe du Monde 2006 pour Noël, ok. Je veux qu'on annule le carton rouge de Zinedine Zidane.
Eh ben, c'est annulé.
Alors voilà.
Offert.
Oh, merci Sarah.
Ah,
c'est gentil. Je veux dire tout ce que j'ai dit sur toi, surtout en cachette.
Et il en a dit des sales.
Oh là là, si tu savais comme ça balance à fréquence moderne. Contrairement à Thierry Roland, qui misait sur l'impro, d'ailleurs, parfois ça s'entendait, Gilardi préparait son sujet beaucoup plus en amont et parfois même il préparait ses commentaires. C'était vraiment
C'est pas facile.
Bah, oui.
C'est extraordinaire. Il fait un match extraordinaire. Bah, non, il avait.
Alors, 26e minute, but de Thierry Henry. Non, pas du tout.
Il est même pas sur le terrain.
Tu sais qu'il commente le PSG là. Ah ouais, mince. Dès qu'il est très pointu. Et derrière, on a eu quand même que des années de Christian Jean-Pierre. Et c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Moi, je suis pas complètement d'accord. Et je suis pas complètement contre.
Bah, il l'a pas encore donné.
Mais c'est ce que Younes aussi écrit ses commentaires avant.
Le problème, c'est que Younes l'a bien de baver sur ce micro.
J'ai parlé trop tôt.
Il est très tard, il est 21h.
je pense que depuis Gilardi, alors j'aime bien Marc Gauthon. Parce que son second poteau pavard, il est magique, mais on n'a pas retrouvé la flamme, comme dirait Marc. Celle-là, elle est un peu technique aussi. Il faut regarder une série que j'ai pu avoir, en tout cas moi, avec Thierry Gilardi. Et pour terminer sur une note beaucoup plus joyeuse, on va faire un petit best-of de quelques-uns de ses commentaires.
Ouais.
Alors, je vous dis juste ce que c'est avant. On va avoir du PSG Real 93, Coupe de l'UEFA. Le PSG a perdu 3-1 à Bernabéu. Il doit gagner par plus de 2 buts d'écart, donc par 3 buts d'écart pour se qualifier face au Real Madrid.
Et casque d'or.
Dernière seconde de jeu, coup franc pour le PSG. Quand Boiré va surgir, le PSG mène à ce moment-là 3-1, donc ils sont à 1 but de la qualification. Deuxième match, Nantes-PSG, 94, le jeu à la Nantes de Suédo.
Coco Suédo.
Coca-Cola.
Coco Suédo.
Jeu à la Nantes de Marc Marquez. Et but incroyable de Patrice Loco en une touche. Je vous invite à regarder ce but, il est magnifique. On le mettra sur les réseaux sociaux comme tout ce qu'on n'a pas mis. Ensuite France-Paraguay 98 évidemment et deux France-Espagne, le France-Espagne de 2006 avec l'égalisation de Ribéry et le troisième but
Mobilette.
De Zinedine Zidane.
Ouéa est devant le but.
Tamboiré aussi.
Tamboiré aussi, il est monté tête. Et avec une relance qui n'était pas stupide sur Pedros. Ballon Nantais, Coé s'est précipité pour jouer rapidement sur Loco. Loco Pedros, Pedros Loco, c'est fabuleux! C'est extraordinaire! But de toucher le sol. Et Nantes qui mène 1-0. Avec une prise de risque peut-être de Pires. Il est dans la surface.
Allez,
le
oui,
Trezeguet,
oui, oui.
C'est fini. But de Laurent Blanc. La France est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. La lumière est venue de Laurent Blanc.
Vieira, Vieira.
Sur une même ligne devant, mais Zidane a récupéré avec Omou pour Wiltord, pour Zinedine Zidane.
Et Zidane.
Elle magnifique Omou.
Zidane est marqué.
Omou. Le but.
Et Zidane est marqué. Zidane. Et Zidane est marqué.
Elle
et Zidane est marqué. Zizou.
Elle magnifique. Et l'équipe de France qui mène 3-1. Génial.
Et on rappelle qu'il a écrit tous ses commentaires avant le match.
C'est ça qui est le plus fou. Voilà. Ah non, mais ça donne trop envie. J'espère ouais. qu'on va avoir un euro.
Ouais,
cette
j'espère
année.
Aussi. On espère.
Ouais, on espère qu'Hilardi va revenir.
Non,
on doit t'expliquer quelque chose.
Il est parti dans une famille quelque part, mais il est heureux.
Fichu, mais vraiment fichu Covid.
C'est voilà, je n'ai absolument pas de fin. Voilà, je voulais terminer là.
C'était magnifique.
Magnifique, plein d'émotions. Et c'était même pas triste, figure-toi. C'était un pur plaisir. Merci Olivier.
Locaux. Allez, on vous laisse là-dessus.
Viera.
Merci beaucoup, Olivier. Franchement, moi, j'ai un peu vibré. J'étais très contente.
Oui.
Et j'avoue, je suis extrêmement émue. Vous devez l'entendre à ma voix parce que.
Les trémolos.
Chloé, tu vas nous parler foot ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe là ?
Je me suis tâtée. J'étais pas là l'année dernière. Je me suis dit, est-ce que j'en profite pour faire enfin la compilation de Marc Marquez ?
Mais ça aurait pu être pas mal.
Mais j'y ai pensé, sauf que vu la saison 2020 et qu'il a. Couru à peu près 3 courses, un peu compliqué, je vous le cache pas. Donc, effectivement, je vais rester sur du foot.
Oh.
Toi ?
C'est mon vrai cadeau
ça
de
c'est
Noël
dingue.
Aux auditeurs.
Ah ben c'est
la vache, c'est moi qui allais te muter là.
tu vois, tu vas peut-être même apprendre des choses. Je suis pas sûre, mais on va parler d'une personne donc, que j'ai découverte, que je ne connaissais pas, parce que vous connaissez mon amour pour le foot. Un vrai plaisir.
Zinedine.
Zinedine Zidane. Et quelle personne. Non, pas du tout, j'ai découvert alors, une grande dame du foot qui se nomme Marinette Pichon.
Marguerite Duras.
Et du coup, je vais laisser une autre voix du sport la présenter. En la personne d'Alain Vernon pour Stade 2.
Marinette Pichon est attaquante. 22 ans, secrétaire, mais une seule passion, le foot. Elle a joué avec les garçons jusqu'à l'âge de 14 ans. Elle est la meilleure buteuse de l'équipe de France. 17 buts en 26 matchs. Marinette, c'est le danger numéro 1 pour l'adversaire. Son principal atout, la technique balle au pied. Rien à envier aux garçons.
Et ouais.
Toujours
rien
ce petit quand même,
cette
petite rien à envier avec les garçons
toujours,
qu'on est obligé de placer.
Ah, pas de sexisme, pas du tout, je vois pas du tout de quoi vous parler. Donc Marinette Pichon, qui c'est ? Marinette Pichon, elle est née le 26 novembre à Bar-sur-Aube. Donc c'est une chouette petite commune française.
C'est presque Barcelone.
C'est à côté de Troyes, non ?
Pas sûr.
Dans l'Aube.
C'est pour ça, oui.
Mais les habitants de Bar-sur-Aube sont appelés les Baralbins. Voilà,
ah, vous avez appris. Presque les Barcelonais.
Une première chose.
Deuxième fois qu'une S.
Donc c'est un endroit absolument charmant, mais ça l'est moins que la vie de Marinette Pichon, parce que les premières années, c'est... Enfin, en fait, toute son enfance est très très compliquée, puisqu'elle a un père alcoolique et violent qui la rabaisse sans cesse.
Ah merde.
Donc on part pas très très bien, mais un jour, quand elle a 5 ans et qu'elle se balade avec sa mère dans le village, elles vont près d'un stade local, et elle voit un match de foot féminin. Et l'entraîneur, en fait, la voit, qui a l'air très intéressée par toute cette foule, toute cette vie, cette joie qui a l'air de se dégager de ces gens, lui propose de rejoindre l'équipe et elle, de but en blanc, lui répondra « Ben non, mais ça ne peut pas jouer parce que c'est une fille. »
Ah,
et donc
pauvre.
Ça, c'est un souvenir très précis de Marinette, donc comme quoi elle a été...
Elle zozote,
Non, mais elle avait 5 ans, donc j'ai un peu extrapolé.
Mais tu l'as très bien fait.
Je l'ai pas mal fait, hein, mais c'est parce que c'est zozote souvent quand je suis seule.
Oh la vache.
Donc, malgré ça, elle va quand même prendre le chasuble et rejoindre l'AS Brienne jusqu'à ses 16 ans. Et on va découvrir en fait que Marinette, c'est un diamant brut en fait. C'est un talent. Elle a un pied gauche incroyable. Elle fait des reprises de volée, mais
facile quoi.
Facile, tu vois, les doigts dans le nez. À 16 ans, elle rejoint la Sainte-Mémie Olympique. En parallèle, en 94, elle fait ses premiers pas au sein de l'équipe des Bleus. Et son premier match sera en mars 94.
Bravo.
Tout lui réussit. Mais surtout, en 2002, Marinette, elle va explorer d'autres horizons.
Vous partez quand ?
Mi-février, normalement.
Mi-février, ouais. Pour le début du championnat.
Pour le début du championnat aux USA.
La meilleure buteuse des Bleus, avec plus de 80 buts en 112 sélections, se découvre de nouvelles qualités grâce à la culture américaine, en plus de son pied gauche magique.
Voilà, donc ça fait bim bam boum, ça fait goal et ça fait surtout déjà l'une des meilleures joueuses du monde.
Ah, les Amériques.
Les Amériques.
Ah, le nouveau continent.
L'Amérique.
L'Amérique, c'est là et je l'aurai.
Non, l'extrait de Marinette qui chante. L'Amérique, c'est l'Amérique. Non, mais en fait, surtout, ce qui est incroyable pour elle, c'est que le soccer là-bas féminin est beaucoup plus important au niveau de la popularité, même que le soccer masculin.
C'est incroyable, bien sûr.
Donc par rapport à la France, en fait, ça lui fait découvrir des horizons incroyables, mais ça ne va pas durer longtemps, puisque malheureusement, en 2004, la Ligue... J'ai perdu ma fiche, pas grave. La Ligue, en fait...
Américaine.
La Ligue américaine, oui, mais il y a un vrai nom, voilà. The Women's United Soccer Association fait banqueroute en 2004.
C'est à cause du nom, ça. C'était pas très vendeur.
C'était trop long. Même les initiales, c'était pas hyper vendeur. Et donc elle refera juste un petit passage en 2004 à l'occasion de la W League. Elle joue avec les Wildcats, mais ça n'a rien à voir avec l'équipe de Troy Bolton. Et ça, c'était pour toi, ma petite référence, Sarah.
Non, tu l'as pas.
Si je te dis Zac Efron qui fait du basket.
Ah, le Seigneur des Anneaux.
Donc Sarah, elle n'a jamais vu High School Musical. Tout maintenant.
Si, j'ai déjà vu High School
Musical. C'est pas comme si on en avait fait un épisode en plus.
On a fait un épisode de 2 heures de perdu. On a même fait un karaoké que je vous conseille.
Alors sinon, en 2003, avec l'équipe de France, elle se qualifie à la Coupe du Monde féminine. Mais malheureusement, elles finissent 3e de leur poule parce qu'elles sont quand même face à des équipes assez vénères. Elles sont face à la Norvège. Elles perdent 0-2. Ensuite, elles marquent 1 contre la Corée. C'est Marinette qui va marquer celui-ci à une reprise de volée à la 86e minute. Et enfin, elles concluent par le Brésil où elles font match nul 1-1.
C'est bien, le Brésil c'est une grosse nation historiquement.
Et en fait, elles auraient pu passer, sauf qu'après, les Coréennes se sont fait déglinguer par les Norvégiennes, je crois qu'il y a 7-0 ou 7-1.
Ah ouais, et donc la différence de but.
Et ouais, du coup, elles sont...
C'est encore l'époque où le foot féminin, il y a encore les gros écarts entre les... comme le début du foot professionnel masculin, c'est juste que c'est venu un peu plus tard, mais il y a des gros écarts encore à la base entre les petites et les grosses équipes.
Et c'est déjà cool que toutes ces équipes se rencontrent.
Ah ouais, mais carrément, mais surtout,
c'est un peu brutal, je pense.
Quand tu vois les États-Unis, ou d'autres équipes comme ça, c'est impressionnant. Hein, c'est...
Alors j'ai un petit fun fact, mais qui est pas drôle.
C'est bien de prévenir.
D'accord.
Non, mais c'est qu'à la base, la compétition, elle devait se tenir en Chine. Mais à cause de l'apparition du syndrome respiratoire aigu sévère, ils sont déplacés aux États-Unis. Donc il y avait déjà un coronavirus.
SARS-CoV
vénère.
Donc de quelle année?
Le COVID-2 quoi.
Le COVID-2.
2003 celui-ci.
Le COVID-3.
Ah, il était vénère. Younes l'a eu le 2003. Moins violent que le 92.
En 92, t'avais perdu 15 kilos.
J'avais un peu chaud aux oreilles. J'ai eu un peu chaud aux oreilles, c'est
tout. Chaud aux oreilles.
Donc après, je résume un peu rapidement, mais elle va pas continuer sa carrière très longtemps puisqu'elle met fin en 2007.
J'ai eu peur.
Notamment après l'échec de la qualification des Françaises à la Coupe du Monde cette année.
Ils sont meilleurs maintenant, les Françaises, mais à l'époque, c'était pas encore la grosse équipe.
Non, on l'aime, Marinette.
Voilà.
Non, moi, j'adore Marinette. Je suis fan. Ensuite, en 2011, donc c'est là où ça devient dans le sujet, parce qu'elle devient consultante pour France Télévisions.
Okay.
Elle commande du coup un championnat de première division. Ensuite, elle commente le tournoi de foot des JO de Londres en 2012, ceux de Rio en 2016 et le championnat d'Europe en 2017 qu'on va écouter maintenant.
Le coup franc pour les Bleus. Camille Abili, c'est en roulant. le geste au bon moment, se coup franc sous la...
Et bah, encore une fois, elle a rien envie aux garçons, hein.
Ah, bah, attends, on dirait presque du foot masculin. Gna gna
gna gna gna gna gna.
Ils ont pas des couilles quand même.
Oh punaise. Bon, Thibaut va muter le micro là, parce qu'en fait, c'est possible.
Et bah, en parlant de couilles, j'avais un dernier petit point du coup sur Marinette. Puisque non seulement c'est con. Non, c'est pas ça. C'est... Enfin, on n'a pas découvert des trucs bizarres. C'est que non seulement c'est considéré comme la ou l'une des plus grandes joueuses françaises de
l'histoire,
foot,
oui.
De l'histoire du foot. Mmh, mais c'est qu'en plus, c'est une icône gay. Puisque ça, depuis. Alors, j'ai pas la date exacte de depuis quand elle a officialisé son homosexualité. En tout cas, en 2012, avec sa compagne. Ingrid Moati, elles ont eu un fils et Marinette du coup a été la deuxième femme homosexuelle à avoir un congé parental à cette occasion. Elle a beaucoup parlé de son vécu entre têtu et son livre qui s'appelle Ne jamais rien lâcher, qui est sorti en 2008, et elle a reçu la même année un outdoor.
Olivier, par contre, il faudra me lâcher à la fin de l'épisode. Ça devient presque gênant.
Je suis désolé, je sais pas ce qu'il y a.
Olivier.
J'ai presque fini. Un outdoor de la personnalité sportive par l'association des journalistes LGBT. Donc, petit résumé, en gros, Marinette, c'est championne de France en 2006 avec Juvisy, vice-championne de France en 2005 encore avec Juvisy, vainqueur du Challenge de France en 2005 avec Juvisy, donc comme quoi...
Juvisy
hein.
Mais c'était énorme, c'était une très grosse équipe, ouais. Juvisy, à l'époque. Maintenant, il y a les grosses blockbusters Paris et Lyon, mais...
Juvisy est toujours présente en Coupe de France, ouais.
Quand Juvisy, je lui vais bien.
Hein. Oui, ouais, elle était rentable.
C'était aussi la meilleure joueuse, de la WUSA en 2003 avec, j'arrive pas avec le masque, c'est compliqué, avec l'équipe Philadelphia, les Chargers. C'est la meilleure buteuse de première division en 2001 et 2002 avec Saint-Mémy et en 2005 et 2006 avec Juvisy. Et enfin, c'est 112 sélections et 81 buts. Je crois que ça a été dépassé par 82 buts cette année par une joueuse française dont j'ai oublié le nom. Je suis navrée.
Mais c'est énorme, 80 buts en 112 matchs, c'est du délire.
C'est incroyable.
Hein.
Et on va la laisser du coup faire son petit bilan de fin de carrière.
C'est un parcours plutôt flatteur puisque voilà, 112 sélections, 80 buts, c'est plutôt un bon ratio. Et ça, je le dois à mes collègues, à mes copines, hein, parce que quand on mettait des caviars dans les pieds ou des services splendides, ben, j'avais plus qu'à pousser un truc qui met le ballon au fond. Après, il y a aussi des buts où je suis allée chercher moi-même. Mais c'est un travail d'équipe. Je suis vraiment fière d'avoir eu la chance de porter ce maillot en équipe de France à 112 reprises. De faire partie des centenaires et puis ben, d'avoir marqué peut-être à ma façon l'empreinte du football féminin.
Et c'est pas tout à fait fini parce qu'avec Marinette, on a une dernière surprise dans nos filets. Oui. Donc je suis ravie qu'on ait entendu l'extrait de Nelson Monfort un petit peu plus tôt. Parce que si la version Nelson Monfort, c'est celle des boomers, bah voici celle des millennials.
Je vais te donner trois petits autocollants et tu vas
faut que j'école.
Choisir.
Jolie mademoiselle, Platon aussi.
Super, merci beaucoup.
Et oui, c'est sympa.
Génial ce truc.
Où tu ailles, t'as un petit autocollant.
C'est génial un petit autocollant. On pourrait avoir un petit autocollant.
Elle en a pas eu un, elle en a pas eu deux, elle en a eu trois.
Ah. Wow. Moi, je préfère les pins.
Et je pense que c'est Eugénie Le Sommer qui a dépassé. Voilà.
Bon, en fait, on hésitait entre Wendy Renard.
Ouais, bah, Wendy Renard, c'est une défenseuse. Ah,
Amandine Henry.
Elle joue plus reculée, elle joue pas en attaque.
Ah oui, d'accord.
Bon, après, Olivier vous dit tout ça avec beaucoup de certitude, mais il vient de checker son iPhone. Hein. Je l'ai devant moi, je peux quand même.
Pour rendre le sûr, parce que j'hésitais entre. Allez faire voir.
Écoutez, merci beaucoup, Chloé.
Oui, c'était très chouette.
C'était super. Ah oui. Et avant de passer à la suite de nos petites aventures, et pour nous remettre de toutes ces émotions de première mi-temps, je vous propose de faire une petite pause musicale.
Ah. Let me call it old Saint Nick, but she'll walk.
J'aime beaucoup ces musiques de jeunes.
Mais oui.
Pardon.
Oui, oui. C'était pour ceux qui n'avaient pas, qui ne connaissent
Internet.
Pas. Évidemment, c'était les Beach Boys,
les garçons de la plage.
Oh, merci beaucoup, Olivier. Et donc, sans transition, je vais passer la main à Thibaut, qui, je crois, pourrait avoir sa chance dans le monde du journalisme sportif, puisque, en effet, hein, c'est celui qui est capable de vous faire adorer le Stade Malherbe de Caen alors que vous êtes en train de regarder l'équipe se faire piétiner. Et ça, c'est du talent,
alors,
bien sûr.
Alors, je n'ai rien entendu de ce qui a été dit. Et j'aime Malherbe, mais aujourd'hui, on ne va pas parler de Malherbe.
Moi aussi, j'aime beaucoup Malherbe.
Alors, de quoi on va parler, Thibaut ?
Alors, j'avais décidé de vous parler de ce bon vieux Jean-Paul Lhot.
Oui, qui fait un super duo avec Garonne.
Duo avec Garonne, blague qu'on a travaillé longtemps.
Bravo.
C'est, non. On fait un duo comique. Hein, on est demain, n'hésitez pas, demain 20h, La Roche-sur-Yon.
Oui, aux arènes.
Aux arènes.
C'est gratuit pour les filles.
Soirée mousse, bien évidemment.
Voilà, première partie des Chevaliers du Fiel. Donc non, Jean-Paul Lhot, grand gentleman du tennis, en duo avec Michel Drey.
Oui.
Qui a résonné dans mes oreilles.
Le cousin du docteur.
Tous les mois de juin de mon enfance pour les matchs de Roland-Garros. Mais pour illustrer Jean-Paul Lhot, qu'est-ce qu'il me fallait ? Il me fallait la voix de Jean-Paul Lhot.
Ah.
Et j'ai rien trouvé.
Mince alors.
Ni sur YouTube,
ni
sur Dailymotion, ni sur Lina. Rien, niette.
Ah oui.
La dictature, le star system, me muselle.
Je t'ai envoyé un fichier par caramel, tu l'as reçu ou pas du tout?
Je suis sur MS.
Il est encore en téléchargement.
Donc Jean-Paul, ce sera pour plus tard. Et je me suis tourné vers son remplaçant de luxe.
Ah.
L'homme mon champion à moi,
l'homme
mon
du
plaisir
vestiaire.
Coupable.
Jean-Paul Tarn.
Patrick Montel.
Ah, Patrick. Patrick.
C'était ma vanne d'après. Ou plutôt Patrick Montel. Il a passé sa vie à crier. 34 ans de scène exactement. Alors le 8 novembre dernier, il n'y a pas très longtemps, on est en septembre mais bon, projetez-vous un peu. Patrick Montel a fait ses adieux aux commentaires télé sur le plateau de Stade 2.
Eh oui.
Vous connaissez tous Stade 2,
pilier du sport à la télévision.
Il connaît bien Stade 2, you know. Après 34 ans de bons et loyaux services, Patrick a passé le relais à Alexandre Boyon et Alexandre Pasteur, qu'il dit très bon mais moins enfiévré que lui.
Ouais.
Eh oui, parce que Patrick, il avait la fièvre.
Et ouais.
C'est par ça qu'on va commencer. C'est ça qu'on aimait chez lui. Quand le starter retentissait, Patrick bondissait, criait, hurler jusqu'à la ligne d'arrivée. Jugez plutôt avec le fameux record du monde d'Usain Bolt sur 100 mètres. Quelques secondes de pur bonheur. Magnéto, Sarah.
Le premier départ, le bon. Daniel Bailey est en tête et c'est Usain Bolt qui passe. Ça y est, Usain Bolt est parti. L'Express, le TGV est parti. Usain Bolt, 9,58.
Là, je crois qu'on peut dire que même Younes a entendu.
On dirait qu'il court avec eux.
Mais c'est exactement ça. Il y a tout ce qu'on aime chez Patrick Montel. La voix stridente, horrible, les mots qui s'enchaînent, qui se répètent à l'infini. C'est moche, c'est odieux, mais c'est addictif en même temps. On ne peut pas s'empêcher d'en manger. Et oui, le son n'est pas limité comme sur vos iPhones avec Patrick Montel. Et ça va toujours plus fort, c'est toujours plus moche.
Et c'est pas Siri, hein. Oui, c'est sûr.
C'est pas Siri. Alors revenons un peu sur la carrière de Patrick Montel. Elle commence en 86. En 86,
Younes.
86. Ah. Younes a 97 ans. Bon, ça là, c'est fait. Alors, c'est déjà la deuxième blague vieillesse. Il faut peut-être que j'arrête. Donc 86, c'est les années d'or de Stade 2. Chloé vous a parlé d'Alain Vernon qui faisait le portrait de Marinette Pichon. Bah, il était de cette équipe-là. des vieux journalistes un peu racistes. C'était cette belle époque. Mais
il y en a encore quelques-uns aujourd'hui.
Il y avait Jean-Paul Olivier, oui. Pierre Fula.
C'est juste sexiste.
Ouais, il y avait qui c'est que vous connaissez, Gérard Rolls, Robert Chapat, Pierre Salviac, Thierry Roland. Oui. Ah non, Thierry Roland, je crois qu'il était déjà parti chez TF1. Bref, c'était une belle troupe, hein, une belle troupe de jeunes. Patrick, on lui dit, tu vas commenter les championnats du monde. Non, pas du tout. La Coupe du monde de foot en 86 au Mexique. Mais tu restes en France, à Paris, au studio. C'est juste pour pallier les gars qui n'ont plus de son. En fait, tu vas faire le
c'est un coup dur. C'est un coup dur, ça.
C'est un coup dur. C'est un coup dur. Ouais. C'est un salaud. Il aime bien. On le retrouve. Il est très timide, un peu timoré. J'ai pas la vidéo, mais je l'imagine très bien.
Bah, ouais. Mais moi, déjà, on voit avec sa coupe au bol un petit peu.
Exactement. Ouais. Mais on voit que dès qu'un ballon finit au fond des filets, ça commence à gueuler, c'est moche, c'est tout ce qu'on dit.
Il est survolté.
Puis les événements s'enchaînent, il traverse les époques, début des années 90, il commande du basket. On devient champion d'Europe avec Limoges en 93.
Tout à fait.
Waouh. Wow. Ouais, Olivier me l'a dit
avec
beaucoup de certitude.
Richard Dacoury.
Oui, avec Richard Dacoury. Ouais, et là, il est dedans. Mais le sport de prédilection de Patrick, c'est quoi?
Ah bah. C'était évidemment
l'athlétisme.
C'est l'athlétisme.
C'est la luge athlétique. Yeah. Et aux côtés du discret et posé Bernard Faure, que vous connaissez peut-être, il forme un duo relativement agréable.
Il est costaud.
Ouais, costaud. Fort comme un turc. Et pour tous ceux qui ont tant aimé glander des étés entiers devant France Télé à passer du 100 mètres au 200 mètres, du lancer du pot au saut à la perche, du disque au 3000 mètres, avec Patrick toujours en forme, c'était quand même quelque chose. On aimait ça. Alors pourquoi Patrick? Pourquoi on a choisi Patrick?
Eh bien oui, pourquoi?
Oui, pourquoi?
Pourquoi? Qu'est-ce qui me fait dire que Patrick Montel, il est unique?
Bah c'est surtout parce que t'as pas eu ton Jean-Paul Lotte, là.
Alors, ça c'est le premier, mais j'ose pas le dire à Patrick. La vraie raison, c'est que je me rends compte qu'à chaque moment d'histoire de l'athlé, je ne peux pas dissocier la performance sportive que je vois et le son que j'entends. Ouais. La voix de Patrick et l'image sont indissociables. Je ne les imagine pas sans l'autre, vous avez compris? Elles sont indissociables. Elles
cohabitent. J'ai bien compris.
Oui,
compris
bien.
Moi,
compris.
J'ai bien compris.
Bien compris, bien compris.
Des plus belles victoires de Marie-Jo Pérec au JO de Barcelone. Et je vous renvoie vers l'excellent numéro de PO sur Marie-Josée Pérec.
Excellent numéro.
En passant par les bonds de 7 mètres Denise Barber en saut athlétique. Un saut en longueur, saut athlétique, oui. Ou à l'heptathlon, il y a toujours Patrick dans le coin pour commenter ses exploits. Mais j'ai envie de vous dire autre chose. Même Marie-Jo Pérec, quand on lui parle de ses courses des JO, elle dit « les deux sont indissociables ». Quand on me parle de mes performances olympiques, on me parle autant de Patrick que de moi. Et elle dit « c'est plutôt cool, les deux vont ensemble
et j'aime ça ». Ils transforment l'événement, oui.
Je vous renvoie. Non, je crois que je l'ai déjà dit.
Allez, podcast.
Non, pourtant, c'est pas celui-là que on aurait pu vous mettre, Marie-Jo Pérec, que vous connaissez par cœur. J'ai décidé de vous parler de la finale du 4x400 mètres de Floria Gay.
C'est génial.
Championne d'Europe à Zurich en 2014. D'abord parce que c'est le meilleur souvenir de Patrick Montel. Il le dit lui-même. Au commentaire, c'est ce que j'ai préféré parce que c'est inattendu. Ensuite, parce que la course, elle est importante, mais c'est pas non plus la finale des JO. Et Patrick arrive à la commenter comme personne, comme si c'était un événement de dingue, alors qu'on est sur une finale de relais de 4x4 au championnat d'Europe. Et puis ensuite, parce qu'il s'est trompé, et on aime bien quand Patrick se trompe. Alors vas-y, Sarah, un petit extrait.
Et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français, parce que là, on ne revient pas. Hein. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic, et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie, avec toujours la possibilité pour Adeoye, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant.
Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais la Britannique est en train de craquer.
Alors peut-être.
La Britannique est en train de craquer, Patrick.
Allez. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même.
La Britannique a temporisé.
Elle
va se battre,
elle va se battre. Elle revient,
C'est énorme.
J'ai jamais vu ça.
Non. Hey, Patrick.
Je n'ai jamais vu ça.
C'est extraordinaire.
Mais
extraordinaire.
Regarde. Mais c'est pas possible.
Elles sont amurées.
En fait, ce que je trouve trop cool dans cet extrait, c'est qu'à la fin, ils sont tous sortis de leur rôle de commentateurs et ils sont plus que supporteurs.
C'est exactement ça.
Ils sont là, allez, vas-y. vas-y, vas-y, tu vas le faire.
Si les extraterrestres nous écoutent, ils débarqueront jamais sur Terre. On retient deux choses. La première fois, quand il dit bah, on revient pas.
On revient pas.
Et puis ensuite, le fameux alors peut-être qu'il ne veut rien dire. Mais bon.
Et puis le moment où il vrille et tout d'un coup, il perd son ego et tout. C'est pas grave parce que c'est trop cool. Parce que c'est trop cool.
C'est vrai que l'instant de bascule est assez truculent. Ouais, c'est...
Bah, faut dire qu'elle avait vraiment 15 mètres de retard.
Ah non, mais c'était délirant. C'était impossible qu'elle revienne.
Et on vous mettra l'extrait.
Oui,
oui bien sûr, comme tous les extraits.
Sur tous les, voilà, vous retrouverez cet extrait avec tous les autres extraits qu'on vous a mis sur les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, déjà quand Younes dit le mot réseaux sociaux,
se passe je suis interdit de réseau social.
Donc ce jour-là, Floria Gay, elle a déjoué tous les pronostics, mais on ne retient qu'une chose, la passion de Patrick dans le micro. Il a transformé ce fichu bâton de relais en micro d'or. Et pourquoi ? Admirez la transition. Je vous parle de micro d'or parce que je vous ai beaucoup parlé des envolées un peu passionnées de Patrick Montel. Mais Patrick Montel, c'était beaucoup plus que ça. C'était aussi un bon, voire un très bon journaliste sportif par moment. Et en 2016, oui, je sens que ça ricane. Mais attends, en 2016, il a reçu le prestigieux micro d'or, décerné par l'UJSF, qui est l'Union des journalistes du sport français.
Par l'UJF.
J'ai hâte qu'on nous le donne. Allez, on mérite, là. Oui,
ça fait longtemps, là.
On le vise.
Dans la catégorie handisport.
Oui, bah oui, ça marche.
Et récompensant le meilleur reportage sportif.
Ah.
Je ne sais pas si vous connaissez une sportive qui s'appelait Marieke Vervoort, qui était une athlète paralympique hollandaise, d'ailleurs, qui s'est donné la mort. Donc c'est pas très gay pour l'instant.
Non.
Elle souffrait d'une maladie rare qui l'a privée de l'usage de ses jambes et elle avait tout donné au sport. Elle a été championne du monde de 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres. Elle a été médaillée olympique aussi et elle a décidé de se donner la mort parce qu'elle souffrait trop, mais elle avait choisi son moment d'euthanasie. Donc on a beaucoup parlé d'elle ces dernières années parce qu'elle était à la pointe de ce combat-là. Et Patrick Montel avait une relation spéciale avec elle. Parce que c'est un peu l'histoire de Patrick Montel, de rencontrer des gens, de tomber un peu amoureux d'eux, de les aimer, d'aimer passionnément des sportifs. Il a fait un très beau reportage qui s'appelait Le Contre la Mort. Et on peut peut-être en écouter les premières secondes, parce que c'est vraiment très beau.
Elle se prénomme Marieke, mais tout le monde en Belgique l'appelle Willemie. En anglais phonétique, ça pourrait vouloir dire la roue et moi. Et la roue, c'est plutôt celle de l'infortune.
Là, je souffre, j'ai très mal dormi cette nuit, mais je suis quand même présente à l'entraînement. Je veux montrer que dans la vie, si tu veux vraiment quelque chose, tu peux l'obtenir. C'est ma seule raison de vivre. L'entraînement. Faire de bons résultats. Si je n'y arrive plus, je n'ai plus rien à faire ici. J'ai besoin d'avoir une raison de vivre.
C'est un reportage qui donne un peu une autre image de Patrick Montel aussi.
Tout à fait.
Et elle l'avait, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, invité, mais à assister à ses derniers jours à son euthanasie. Elle avait vraiment une relation spéciale à lui. Et des histoires comme ça, il en a quelques-unes.
Très sincèrement, il cache bien son jeu parce qu'en réalité, on a l'impression qu'il est plutôt détaché. Mais alors, évidemment qu'il est assez présent sur les commentaires, mais j'ai rarement entendu que...
Vous regarderez, on vous mettra le lien.
Sur les réseaux sociaux.
Mais non, pour le coup, c'est un beau reportage.
Ok, merci.
Alors, on va terminer dans la bonne humeur quand même.
Ah.
Parce que, bon, Patrick, il était loin de faire l'unanimité. Hein. On sait, parfois, il était un peu agaçant. On le jugeait toujours un peu dans le même registre, pas très noble, un peu débile parfois. Dans ses commentaires.
Tu veux dire qu'il n'avait pas que des copains ?
Non, il n'avait pas que des copains, il faisait quelques conneries et l'une d'entre elles va causer sa porte.
Sa perte.
C'est avant les mondiaux de Doha en 2019. Il y a une sportive qui s'appelle, une marathonienne française qui s'appelle Clémence Calvin. Elle va se faire gauler dans un contrôle antidopage à Marrakech. Elle refuse de se faire contrôler. Bref, elle est interdite des mondiaux. Et Patrick Montel, il va la défendre parce qu'il défendait les gens qu'il aimait toujours un peu trop, un peu passionnément.
Ouais. Il manquait peut-être un petit peu de discernement quand il aimait une personne.
Il n'avait pas beaucoup de distance. Ouais. Il va faire un Facebook Live un peu terrible où il va dire, attendez, je vais vous le retrouver dans mes petites fiches. Ah. Il va dire, d'où vient le dopage ? Est-ce que c'est l'athlète lui-même qui est responsable du dopage ou est-ce que c'est un système qui conduit l'athlète à se doper ? Une grande partie des athlètes trichent. Ensuite, il s'excusera, mais c'en est trop. France Télé décide de lui retirer les mondiaux de Doha. Donc, il rentre chez lui. Kevin Mayer prononce une phrase assez juste, je trouve, à l'égard de Patrick Montel. Autant j'arrivais à supporter Patrick Montel malgré ses nombreux défauts, mais là, c'en est trop.
J'aime bien. Il l'a bien soutenu.
Je trouve ça pas mal. Non, mais en voulant défendre une partie des athlètes et en voulant défendre les sportifs parce qu'il les aime, il a fait des amalgames complètement dingues, en fait. Il a oublié de dire que ça blessait des tonnes de sportifs qui, eux, évidemment, ne se dopent pas et qui sont la grande majorité, probablement. Mais voilà, ça, c'est tout mon Patrick. Hein. Parfois, il déborde, Patrick.
Comme le lait quand tu le laisses trop sur l'eau.
Mais on va quand même terminer par une note positive avec Patrick parce qu'il m'a fait vibrer tout autant que les athlètes. Alors cap sur les JO de Vancouver en 2010 et la finale du combiné nordique avec Jason Lamy-Chappuis, Magnéto.
Allez, pour l'instant Jason, impeccable, impeccable Jason, mais il faut revenir sur Spillane. Peut-être là maintenant, Spillane qui va négocier parfaitement le dernier virage descendant, qui va se lancer maintenant à corps perdu. Allez, alors que Jason, il passe en deuxième position.
Allez, tu passes, allez, Jason, allez,
Jason,
allez.
Lamy Chappuis, comme un gros, comme un
allez,
champion
du monde.
Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Il va revenir. Allez,
allez, attention,
Jason.
Attention, Anton Lundvik aussi derrière Pitin.
Allez, 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 Jason, ça revient.
Le dernier virage, allez.
Spillane, il n'en peut plus. L'Américain Spillane est à bout. La dernière ligne droite d'entrée du dernier virage.
Allez, avec Jason, allez.
J'aime bien ce fond. J'aime bien. Une question, est-ce que vous avez vibré ?
Oui,
bien sûr.
Vous avez donc vibré devant du combiné nordique, un mélange absurde de saut à ski et de ski de fond. Et c'est ça, mon Patrick.
Mais c'est grâce à Patrick. Ouais.
Capable de vous faire vibrer sur du combiné nordique comme une finale des Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde de foot. Patrick, il aime les sportifs et nous, on aime Patrick. Alors Patrick, on ne t'oubliera pas, ou plutôt, on t'oubliera pas.
Merci beaucoup Thibaut.
Il m'a fait aimer Patrick Montel.
C'est merveilleux.
Incroyable.
Et pour finir, celui qui chaque mois nous fait remonter le temps et plonger dans son enfance difficile pendant l'entre-deux-guerres.
Le chouchou de la prof.
Et le Léon Zitrone.
Alors Younes, de qui vas-tu nous parler ce soir ?
J'ai aimé entendre les événements relatés par Thierry Gilardi quand Olivier les a présentés. J'étais très surpris par Marinette Pichon. Et puis j'ai appris à aimer Patrick Montel. Ouais.
Mais là, je vais vous parler. Bel épisode alors.
Ouais, c'est un bel épisode, ouais. Et bon, j'espère que je ne vais pas le gâcher.
Tu sais, tu es coupé de toute manière. Hein.
Ça fait six mois qu'il ne passe plus à l'antenne, il ne le sait pas.
Avant d'être une grande voix du sport, et c'était avant tout un footballeur, mais pas de ceux qui viennent squatter les plateaux télé pour dire, supposer leur avis sur la technique et la tactique. Non, c'est quelqu'un qui a du charisme, un charisme naturel. Un type élégant et passionnant, le latin par excellence, avec tous ses excès. Je vais vous parler d'Omar.
Eh oui.
Sharif.
Non, presque.
M'a tué.
Omar Sy.
Non, presque. Non, pas du tout.
Omar Adonna.
Omar. J'arrête. Omar Da Fonseca. Et avec ce nom, avec ce doux nom qui respire l'exotisme, il nous vient de très loin. Il nous vient du pays du football, le pays où les gens ont sacré un homme dieu du football.
Eh oui.
Il nous vient
l'Érythrée.
Il vient d'Érythrée, tout à fait.
L'Australie.
Non, il nous vient d'Argentine. Ah. Il naît en
Érythrée-Mour.
Ah, ouais, voilà, là on peut.
Le polémiste.
Le plus long pour la fin. Alors.
Il est né le 20 octobre 1959 à Buenos Aires, ou Buenos Aires.
Un an après ta maman,
tout à fait.
Qu'on embrasse d'ailleurs.
On embrasse Dominique.
Bisous Dominique.
Et il fait une grande partie de sa vie et de sa carrière en France, où il finira naturalisé français.
Mais oui.
Car il joue... ta fille est bourrée.
Oh, c'est même pas vrai.
Non, c'est faux.
Pas encore.
Pas encore.
Par contre, bon, bref.
Oui, bah oui, parce que en fait, il a fini par être naturalisé français, car il a fait quasiment 10 ans de carrière en tant que footballeur dans des clubs français. Et il débarque un matin
mais oui.
de 88 à Monaco.
C'est pas la France, hein.
Non. C'est vrai. Mais c'est la première fois qu'il pose les pieds sur le territoire européen. Et tout simplement, en fait, il ne quittera plus jamais la France. Voilà. Il joue durant la majeure partie donc, de sa carrière professionnelle dans le championnat de France, en remportant 2 titres nationaux avec Paris, donc le Paris Saint-Germain en 86, et avec l'AS Monaco en 88. Mais à la base de
un an avant et un an après ma naissance, ok, j'arrête.
Incroyable.
Moi aussi.
Sans toi aussi, après la naissance de Guinness, j'ai fait avant vous.
Mais il fait une grande partie de sa carrière au FC Tours, tout à fait pour être précis, pour finir en 93 au PFC, premier de deuxième division au moment où on est en train de parler.
Au moment où on est en train de parler, concrètement on ne sait pas, mais... On sait. Autant pour moi, je suis bon.
Ils ont battu Malherbe.
Ouais, mais Malherbe va remonter.
Et tout le monde a battu Malherbe.
Mais avant d'arriver en France et d'être un grand footballeur, il grandit en Argentine et il dit de ses mots, il vient d'un milieu où le ballon était le roi des jouets.
Ah, ça, c'est beau.
Il fabriquait des ballons avec du papier et avec des objets de récupération et c'était un bien très précieux. C'était un milieu modeste, pas forcément très pauvre, mais plutôt modeste, où les choses avaient de la valeur. Et comme de beaucoup de footballeurs en Argentine, il a vécu ses premiers souvenirs de football gamin autour d'une radio fédératrice avec sa famille et ses amis, où les commentateurs avaient le verbe facile et l'adjectif florissant. Quand il fallait faire imaginer en fait aux gens qui étaient autour de la radio un événement et pouvoir le grossir, l'améliorer, l'exagérer et une simple touche devenait en fait un événement majeur. Et effectivement, c'est quelque chose qui se transmettait comme ça en Argentine et cette fièvre est arrivée très facilement en fait dans la tête du petit Omar qui très vite a décidé de devenir footballeur. Il est supporter du Vélez Sarsfield. Alors, ça fait partie en fait des nombreux clubs qui ont pour site la ville de Buenos Aires. Mmh. Contrairement en fait à Paris où la ville ne peut abriter en fait depuis quelques années qu'un seul grand club. Dans les grandes villes du foot et dans les grands pays du foot, les capitales se constituent avec énormément de clubs de foot. On a presque une dizaine en fait dans l'élite et donc c'est quasiment des championnats à part entière. En Argentine, c'est ton père ou ton grand-père qui choisit le club que tu supportes. Et ça, c'est lui qui le dit. Tu peux changer de maison, de vélo, de voiture, de femme, mais tu ne changeras jamais de club.
Surtout de femme, tu peux changer.
C'est un grand philosophe et c'est pour ça qu'on va entendre sa philosophie tout de suite, de sa bouche.
Ne te distrais pas avec le passé. Ne t'illusionne pas avec le futur. Appassionate, nourris-toi du présent. L'intelligence me poursuit. Mais je suis plus rapide.
C'est génial.
Mais
jamais sans sa guitare.
Mais il est bloqué dans les années 90.
C'est un mec entier comme le lait et je peux vous dire.
Quand il déborde ou pas,
Patrick.
Il vient d'un milieu effectivement où on vit les choses à fond. Alors souvent on le vit avec du heavy metal.
Voilà. Oui, c'est normal.
C'est pour ça. Donc, Vélez dont il en devient joueur attaquant et quitte peu de temps après et quitte aussi l'Amérique du Sud au même moment, malgré de nombreuses sollicitations, notamment en Colombie. Son père, qui avait une vie d'ingénieur et donc pas forcément quelqu'un dans l'urgence économiquement, très certainement, n'avait pas beaucoup apprécié les premières sollicitations qu'il a eues des clubs professionnels qui étaient venus essayer d'attirer son fils dans de meilleurs clubs que celui de Vélez. Et logiquement, il n'allait pas forcément aller jouer à Boca Juniors ou à River Plate, qui sont les deux grands clubs de Buenos Aires. Mais parce qu'en fait, il était fidèle à Vélez. Et c'était l'idée, c'était peut-être de quitter en fait, l'Argentine. La Colombie, à l'époque, avait une réputation plutôt sulfureuse, et notamment des clubs qui étaient possédés par des narcotrafiquants. Ah et bon son père ne voyait
pas... Maintenant, c'est clean.
Non, maintenant, c'est complètement clean, bien sûr. Et son père ne voyait pas forcément ça d'un bon oeil. Un certain Carlos Bianchi, Oui. Donc, ceux qui ne connaissent pas, était un énorme attaquant qui a joué en France et qui a l'un des plus grands scores, entre guillemets, il fait partie des trois plus grands buteurs du championnat de France. Et vient et conseille son père et exprime en fait à la famille de Carlos, de Omar da Fonseca, que la France serait peut-être une destination idéale pour le petit Carlos. Et donc il arrive à Nice, les premiers pas qu'il fait. Tout à l'heure j'avais dit Monaco, mais en fait il arrive à Nice.
Et là c'est en France.
Et voilà, là c'est en France.
Dans 10 minutes il arrivera à Vierzon. En fait.
Et la fédération française lui fait faire un test physique à travers une série d'exercices de sport de fond. Footing, test Cooper, etc. Ça ne marche pas vraiment bien. Lui, il trouve ça très bizarre. Lui, il vient d'un pays où le ballon est roi et le seul et unique test est de faire du ballon une priorité. Et donc finalement, logique, être sélectionné pour faire du foot en faisant des tests physiques, il trouvait ça très compliqué. Il finit par échouer à Tours et est encore surpris par la tâche d'un attaquant, que la tâche d'un attaquant soit celle aussi de tenir un peu des positions défensives. Néanmoins, après avoir mis un peu de temps à s'adapter, comme beaucoup de joueurs sud-américains, il finit par s'adapter très bien.
Oui, on a un beau pays.
Et puis surtout, la langue, ça commence vraiment à lui plaire et il commence à s'intéresser au théâtre. Ah, beaucoup
une très belle langue, on est un peu très cultivé, qu'est-ce que je vous dis. C'est la France qu'on aime.
Ça reste quand même un choc culturel, lui qui faisait la différence et un football besogneux qui réussit rarement au latin. En fait, bah, finalement, bah, évidemment, la France, on l'aime. On continue à jouer au FC Tours. De son aveu, il ne fut pas un grand joueur de football. Bon, il inscrit quand même 76 buts pour moyen. C'est pas mal.
Bah, c'est vachement bien. Bien.
Bah, ouais. Sur la moyenne Jimmy Briand, par exemple, très bien.
Sur ma moyenne, c'est pas mal. Alors.
Ah, ouais. C'est un peu en dessous quand même.
C'est légèrement en dessous. Ouais. T'es quand même meilleur.
Quelle buteuse. Ça. Oh là là. Et les deux pieds. Hein.
Ça bute.
Et donc, à l'issue de sa carrière, finalement, après une bonne grosse dizaine d'années, il devient agent de joueur, recruteur, ainsi que consultant et commentateur de matchs dans les médias. Et c'est là que Omar nous intéresse le plus. Et on entend maintenant Omar l'humaniste.
En cette période de l'année où le soleil joue petit bras, j'ai une grosse pensée pour les éducateurs du monde amateur. Ces anonymes accoucheurs des rêves. Ceux qui, certains soirs, au plus fort de l'hiver, se font souvent violence pour aller donner le meilleur d'eux-mêmes. Ceux qui parfois se disent « Stop, j'arrête. Ce soir, je reste chez moi. De toute façon, à quoi bon? Tout le monde s'en fout. Si tu n'es pas Mourinho ou Guardiola, tu ne comptes pas. L'heure de la séance approche. J'y vais pas. Et soudain, la sensation d'une morsure, d'une brûlure. Le souvenir des enfants, devenus ses enfants. Le souvenir de leur regard, de leur rire, de leur rêve. Qu'il est beau ce rôle d'éducateur, qu'il est noble. Il a chez lui ce côté jardinier qui invite à s'incliner au plus bas pour faire croître plus grand que soi. Comme lui, il arrose de ses consignes, de ses regards, de ses silences, les jeunes pousses qui s'élèvent vers la lumière. Comme lui, il désherbe le mauvais geste, le mauvais mot. Il transmet bien plus que de la technique, bien plus que du savoir-faire. L'éducateur transmet surtout du savoir-être. C'est par sa dévotion et son effort qu'on voit éclore les ballons d'or. Merci pour votre abnégation et la transmission de cet inestimable trésor que porte le nom d'éducation.
Mais il est génial. Mais c'est lui qui devrait être ministre des Sports.
Mais il l'a été.
un passionné bien. Et il rend hommage en fait à ce qu'il n'a pas été, mais à ceux qui lui ont manqué en fait.
Et tu penses que c'est lui qui choisit sa musique?
Non, mais évidemment. Un orchestre qui
se bat toujours avec. Ah oui, il se bat toujours avec. C'est pour ça qu'il n'était pas super footballeur, c'est qu'il y avait toujours son orchestre derrière.
Omar est un homme de goût, Omar est un homme de soin et d'humanité. Et effectivement, il devient recruteur et il fait une parenthèse en fait dans sa carrière pour devenir conseiller des joueurs sud-américains. Et je vais vous passer, il a notamment ramené Javier Pastore. Et effectivement, les mêmes problèmes.
Le triangle dans son orchestre.
Exactement. Et les mêmes problèmes se sont présentés aussi ceux qu'il a rencontrés quand lui était jeune. C'est-à-dire que c'était un joueur très bon manieur de ballon, mais très peu physique. Et il a eu en fait des difficultés à l'imposer en Europe. Mais finalement, bon, il a fait une carrière un peu médiocre parce que effectivement, le physique a pêché.
Pastore.
Oui.
Bon, il n'a pas fait une carrière médiocre, Pastore, quand même.
Et c'est loin c'est de ce qu'il aurait pu être. Enfin, oui, c'est pas mal. J'exagère. Il a été aussi le conseiller de José Luis Chilavert.
Bien sûr.
Ah, oui. Chilavert.
Seul gardien de but à avoir mis 3 buts dans un match.
Exactement. Et il a été gardien dans le championnat de France du Racing Club de Strasbourg, et par exemple.
Aussi.
Ouais. Bon, après, il fait quand même, soutenu par Charles Biétry. Donc, si vous vous souvenez de la chronique d'Olivier sur Thierry Gilardi, qui était un des piliers en fait, de Canal+, et une grande figure du sport, notamment aux commentaires. Donc, c'était un patron de chaîne, directeur des sports chez Canal. Le jeune retraité des terrains fait ses premiers pas à la télévision et très rapidement un style. Son style s'impose. Un mélange de ces deux cultures, car il les revendique. Un mélange de préparation et d'improvisation. Un homme vrai qui cherche à sortir de la banalité des commentaires. Des expressions du genre « plat du pied du machin » ou « interception de machin » ne suffisent pas et ne sont pas pour lui. Alors, il fleurit tout ça. Il offre aux téléspectateurs des moments d'anthologie. Bon, disons-nous, depuis 10 ans, il fait beaucoup sa carrière sur son compatriote Lionel Messi.
Oh, c'est, oui, bah, c'est,
exalté
oui.
au moindre contact avec le pied gauche de l'autre génie argentin. On dit l'autre génie argentin aujourd'hui parce qu'effectivement, on parle forcément de football et d'Argentine avec Maradona. Et j'aimerais encore parler un petit peu de son humanité en lançant le deuxième extrait qui parle de son humanité.
Ce soir, je veux parler d'un film, Green Book, avec Viggo Mortensen dans le rôle principal. C'est l'histoire de... Et puis non, allez le voir. C'est une histoire vraie. Un peu l'histoire de notre humanité, de sa grandeur, mais aussi parfois de sa médiocrité. Une histoire qui traite de racisme, un sujet encore trop souvent d'actualité. Une histoire sans fin, qui continue encore parfois de s'écrire au bord des terrains. Là où le meilleur de l'être humain côtoie le pire de l'homme. C'est l'histoire de tous les Balotelli, les Daniel Alves, les Mandanda, les Mohamed, les Simon, les Vikash, les Nagamoto, les Ribéry, de tous ces différents qui, dans leur quotidien, subissent la haine ou le mépris. C'est aussi l'histoire des justes, prêts à mourir pour les défendre. Ceux pour qui la couleur de peau, la religion, la nationalité, la sexualité n'est jamais prétexte à exclure ou à discriminer. Ceux qui font du stade un lieu d'échange, une terre d'asile, hein, des joies, des paix, des solidarités. Ce soir, je voulais partager avec vous une émotion, celle d'un film qui m'a rappelé la force de notre fraternité, mais aussi sa fragilité. Qui m'a rappelé que contre l'ignorance, le match n'est jamais gagné. Allez voir ce film. Ça parle de l'esprit du football, puisque ça parle d'engagement, de courage, d'amitié et surtout de dignité.
J'adore. Et oui,
mais merci Augustin Trapenard.
Omar, c'est un homme curieux, ouais. C'est un homme en fait qui effectivement mélange les genres, on l'aura compris. C'est un humaniste.
Oh, on l'aime beaucoup.
Et quand il voit un touche et que ça le touche au plus profond de lui, bah, il n'hésite pas à faire le parallèle avec le football. Un monde où malheureusement le racisme est encore trop présent, et bah, il décide d'avoir dans sa petite chronique l'occasion de parler de quelque chose. Et il n'hésite pas à mélanger culture et sport, et ça, on aime chez OPO.
Oui, on adore.
Et oui. Mais bon. Omar, c'est avant tout un homme de terrain. Parce que là, on se demande et on se dit...
Parce que là, je pensais qu'il avait une secte. Hein.
Et bien, il en a une. Et bien, en fait, l'homme de terrain est assez incroyable. Et c'est surtout un chanteur.
Quoi ?
Aussi. Et vous allez voir qu'il aime la musique, car il choisit ses sons hein, pour exprimer sa philosophie du quotidien.
Ouais.
On l'a vu, donc c'est un homme de goût. Et bien, il n'hésite pas à pousser la chansonnette, vous allez voir, quand il est au bord du terrain.
Ballon, oui, récupéré par la Pulga. Occasion, goal, bravo Messi.
Messi, il s'appelle Messi. C'est un garçon pas comme les autres. Mais je l'aime, c'est pas
mais
ma
non.
faute.
Il faut y aller, évidemment, Léo Messi. D'abord, il s'arrête et il accélère. Messi, le ballon. Bravo Messi, maestro ça.
Je t'aime, que je t'aime, que le t'aime.
100 ans.
Voilà, Cristiano et...
Era nada, tierra soñada por ti.
La maxi de Lisanske.
Se vuelve gitano.
C'est génial.
Et oui, avec Omar, c'est jamais tiède.
Moi, je suis abonné à Bean quasiment que pour lui.
Et oui, vrai,
je n'en... Alors, je crois, alors il n'est pas là parmi nous, ce cher Mickaël. Je crois que j'ai déjà eu une discussion avec lui, il me semble. Mais je crois qu'il n'aime pas beaucoup.
Ah oui, oui.
Mickaël. Oh, c'est d'ailleurs mais pour ça façon, qu'il n'est plus là.
C'est pour ça qu'il a dégagé. Hein.
C'est pour ça qu'on l'a viré.
Et tu, comment tu ne peux ne pas aimer Omar?
Moi, ça me paraît dur.
Bon, ouais, ouais. Peut-être parce que c'est aussi un petit macho et qu'il n'hésite pas à faire quelques analogies.
Un peu moyenne.
Un peu moyenne,
oh,
un peu foireuse.
Younes,
un peu sexiste. Bon, en même temps, cette bonne aloi, c'est jamais méchant. On peut lancer.
Ok, l'efficacité, mais après ça, regardez, Ruben, à, je sais pas, à 80 minutes, il part avec 2, 3, 4 mètres derrière. Par rapport à Ramos, il va venir à l'OTAN, il va venir lui faire l'amour sans préliminaire, laisser la carte de visite, parce que ce qu'il lui a fait avec Casillas et Ramos,
c'est un... C'est pour le Brésilien, le tir branché de Neymar, ça file devant la ligne de Sergio Rico.
Voilà. Qu'est-ce qu'il fait piquer
Neymar, incroyable.
Non mais est-ce qu'il fait piquer? Il faut qu'il se jette, il faut la souffler, même avec un coup de soufflage. Et même piquer, il faut qu'il aille avec Shakira, avec tout, la carrosserie, je sais pas, regardez. Il est ton observateur.
Ah, Shakira aime l'image.
Non mais je sais pas comment on peut...
Et alors il y a un mec qui marche très très bien. Je me souviens plus de son nom, donc je l'ai cherché, j'avoue. C'est Benjamin Da Silva, qui est son duo.
Voilà,
ils sont incroyables.
On l'entend d'ailleurs dans les commentaires au bord du terrain. Benjamin Da Silva, c'est son binôme. Il fonctionne très bien en binôme, mais quand même le piquant en fait du duo reste Omar Da Fonseca.
Bien sûr, mais t'as vraiment Da Silva, c'est rigolo puisqu'il il l'amène vraiment et il le supporte aussi beaucoup. Je pense qu'il y en a pas beaucoup comme Da Silva qui peuvent le faire.
Complètement. Alors, pour savoir, avant d'être commentateur, donc il a été donc recruteur et il a eu le nez creux car il nous a ramené ici en France un joueur franco-argentin dont le père jouait à Rouen quand il était petit.
David Trezeguet.
Merci beaucoup.
Ouais.
Et figurez-vous que Trezeguet avait un peu les mêmes problèmes que lui, c'est-à-dire qu'il était plutôt frêle, très technique, mais plutôt frêle. Qu'il fait ses premiers tests au Paris Saint-Germain, que après quelques mois, le Paris Saint-Germain ne veut pas forcément le conserver et il fera les beaux jours de l'AS Monaco et de l'équipe de France. Voilà.
Et oui.
Et ben c'était Omar, un et homme ouais. complet comme le pain.
Allez, il a réussi à la placer.
Merci
Younes.
Mais voilà, j'aime Omar et j'espère que j'aurai donné envie aux gens d'aimer Omar parce que c'est quelqu'un qui déborde de générosité. Et nous, à EPO, on aime la générosité.
Eh oui, on adore ça. Et oui.
T'as pas une dernière chanson pour finir?
Non, mais je vous invite à aller sur les réseaux sociaux. Je ne manquerai pas de vous mettre quelques musiques et quelques chansons d'Omar Da Fonseca. Et n'hésitez pas en fait à aller voir aussi toutes ces émissions.
Oui, par vous-même.
Et abonnez-vous à Bein qui est notre nouveau partenaire jusqu'en 2027.
Voilà, car le Qatar nous sponsorise.
Et on va quand même pas se quitter comme ça.
Hein.
C'est quand même Noël. Alors, petite surprise de Noël, vous pouvez jouer avec nous, bien sûr.
Woo!
Je crois qu'Olivier, tu as un petit quiz.
Mais oui, bien
quiz
sûr, c'est Noël. Noël. Bien sûr, c'est Noël. C'est le questionnaire de Noël.
Noël. Là, là.
C'est le questionnaire de Noël.
C'est le questionnaire de Noël.
Faire encore une heure là-dessus. C'est parti. Alors, on va essayer de vous redonner du peps. Vous pouvez jouer chez vous, dans votre voiture, dans votre salon, dans votre salle de bain.
Oui.
Débranchez l'aspirateur et jouez avec nous pour le questionnaire de Noël. Nous allons revenir sur une année de PO. Tous ensemble, je vais poser des questions à choix multiples et vous devrez me répondre. Attention, ça va être pas facile. En février, je suis. Oui, pardon, excusez-moi, j'arrive. On a parlé de qui? On a parlé des Detroit Pistons, les méchants garçons. Sont parmi eux, un joueur historique qui est aussi le plus craint et le plus méchant de tous ces Pistons.
Je sais.
Bill Laimbeer.
Laimbeer, dit le boucher.
Bah oui, il a même eu le droit à son jeu vidéo qui s'appelait sobrement Bill Laimbeer Combat Basketball. C'était un mélange de basket et de bagarre. Voilà.
Magnifique.
Et on aime la bagarre.
Sur Super Nintendo, n'hésitez pas à nous le trouver. Le fait qu'il se batte lui a valu une apparition dans un film. Mais de quel film? Un film culte.
Ah.
Est-ce que c'est Petit A? Y a-t-il un flic pour
sauver la reine? Est-ce que c'est petit B,
la liste de Schindler,
Hot Shot? Est-ce que c'est petit C, Very Bad Trip 2? Ou est-ce que c'est petit D, l'arrivée du train en gare de La Ciotat?
Ah, j'hésite entre le D et non, je dirais que c'est Hot Shot.
Moi aussi, je dirais Hot Shot.
Hot Shot, Hot Shot.
Le premier.
Eh bien, pas du tout, c'était bien Hot Shot, tout à fait. Hot Shot. Alors, pour la petite histoire, en 90, il se bagarre avec Charles Barkley, qui jouait aux Sixers à l'époque.
Un autre bad boy. Hein.
Et, cette bagarre est reprise. Ils ont beaucoup d'odeur et de dérision puisqu'ils font cette bagarre dans le film.
Magnifique.
Y a-t-il un flic pour sauver la reine? On en parlait aussi dans une autre émission. Mais c'est O.J. Simpson. Very Bad Trip 2, c'est Mike Tyson. Et l'arrivée du train en gare de La Ciotat, c'est le train.
Magnifique.
Nous enchaînons par le deuxième. Chloé, pendant le confinement, nous a parlé d'un marathon pas super ouf en termes de... Enfin, ça s'est pas très bien passé dans ce marathon. C'était assez dur. Ce qui me fait poser la question, c'est quoi le record du monde de marathon? Interdit de tricher sur le Minitel, Younes.
Je suis en mode avion.
Ça dépend.
Est-ce que c'est...
Je dis 7.
Le record officiel du marathon, est-ce que c'est 2h, 1 minute, 39 secondes, 2h, 14 minutes, 4 secondes, 1h, 59 minutes, 40 secondes ou 13 minutes?
2h, 1 et 39 secondes.
Moi, je dirais 7. Sous les 2h et 1, 59.
2h, 1, 39 secondes, c'est par le Kenyan Eliud Kipchoge à Berlin en 18. Kipchoge. Alors, il faut savoir qu'il y a un autre record qui est passé sous les 2h, la même chose, c'est le 1h, 59, 40 secondes, c'est le même, sauf que ça n'a pas été homologué. C'était par l'équipe de Radcliffe, la Néo, ses compagnies qui ont organisé, ça avec des lièvres. Non, mais c'était voulu.
C'était sur piste.
Voilà, c'était sur piste. Oui. C'était plat et c'était avec des lièvres. Pas des vrais lièvres.
Des lièvres. Et une, des lapins. 2h14. Quand même, pauvre petit lapin.
Des grands lapins.
Il y avait un chasseur et tout, ils ont tué le pauvre.
Des grands, grands lapins.
2h14 minutes, c'est Bridget Kosgei, Kenyan aussi. C'est le record féminin.
Et 13 minutes.
13 minutes, c'est le temps que je me mets à mettre mes lacets avant d'aller courir.
Magnifique.
Florence Artaud. On en parlait en janvier, Florence Artaud, vous
belle
souvenez
ministre, hein,
en 2011.
Une étoile qui brille dans le ciel.
Bah, elle va bien. Hein. Oui,
Florence Artaud, au bord de l'Arcade 2, en 2011, elle tombe à l'eau vers le Cap Corse.
Oui.
Et son chat reste tout seul
sur le bateau.
Comment s'appelle son chat? Est-ce que c'est petit A, Kenya? Est-ce que c'est petit B, Boulou? Est-ce que c'est petit C, Bilka? Ou est-ce que c'est petit D, Emmanuel Macron?
Je dirais C.
Willy.
Bilka. À quelqu'un, Emmanuel Macron, c'est horrible.
Artholdi Willy.
Moi, j'appelle mon caca Emmanuel Macron.
Excusez-moi. Et vous réagissez.
Non, écoutez, Olivier, je ne vous invite pas pour ça. Ça suffit maintenant.
Vous êtes hystérique.
Non, Olivier, je dirais la A.
Kenya. Et non, Kenya, c'est le tigre de Mike Tyson. C'est l'un des tigres de Mike Tyson dont il a dû se séparer puisqu'il mordait les femmes.
La réponse est C.
Voilà. La réponse est C, c'est Bilka, comme le verlan pour Kabyle, parce qu'il a été adopté en Kabylie. Boulou, c'est le chien à trois pattes de Georges Eddie. En tout cas, de la boulangère. De Younes. Et Emmanuel Macron, c'est
le président.
Bref. Alors, Pierre-Ambroise Boss, dont tu parles dans l'épisode demain, et le nom de son chat à lui, alors, est-ce que c'est Marcel?
Est-ce que
c'est Rabs? Est-ce que c'est Major ou est-ce que c'est Edouard Balladur?
J'espère que c'est Edouard Balladur.
Rabs.
Tout à fait, c'est tout à fait Rabs, évidemment. Il en parle dans toutes ses interviews.
Marcel,
c'est mon chat à moi. Major, c'est le chat de Joe Biden. Le chien, pardon, de Joe Biden.
Ah oui, à cause de qui il s'est cassé le pied.
Edouard Balladur, c'est un homme politique.
Et Rabs, ça veut dire quoi?
Tu savais que j'avais un chat qui s'appelait De Gaulle?
Rien à branler au pluriel.
Eh oui, voilà, exactement. On parlait tennis, on parlait Nadal, on parlait Federer en juin, deux sportifs qui ont représenté de nombreuses marques. De quelle marque Federer n'a jamais été une égérie? Est-ce que c'est Barilla? Est-ce que c'est Nike? Est-ce que c'est Uniqlo? Ou est-ce que c'est Pâté et Naf?
Pâté et Naf, c'est sûr qu'il est en contrat avec eux. Donc
Alors, il se fait 8 millions pour Nike, 8 millions ou plus, 8 millions pour Barilla, 8 millions pour Nike. Il se fait 30 millions par Uniqlo, 8 millions par Rolex, Crédit Suisse, Jura, Mercedes-Benz, 5 millions, Gillette, Lynn, 4 millions, Helvetia, Sunrise, Crédit Suisse, Wilson, NetJet, Mouette et Chandon, le champagne français, 8 millions. Il n'a jamais fait, en revanche, de pub pour... Pâté Naf.
Ça prouve qu'il n'a pas de goût, ce mec.
Et moi, je fais. Personne ne me donne de l'argent pour faire de la pub, mais moi, je veux bien.
Avec ton salaire à EPO, ça va quand même.
On enchaîne très vite, on n'est pas loin de la fin, je vous rassure. Vous continuez à jouer chez vous, s'il vous plaît, surtout.
Oui, moi, j'aime.
La Grèce, on en parle.
Amazing Grace.
Une autre équipe avait créé la surprise comme la Grèce.
Oui.
C'était en 92.
Oui.
C'était le Danemark.
Je sais.
Quelle était la particularité du Danemark?
Je sais.
Pas qualifiée au départ pour la compète, elle a été vulgairement repêchée décroché à cause d'une disqualification adverse. Elle est parvenue à gagner, réponse B, à gagner 7 euros en ne gagnant qu'un seul de ses matchs du tournoi dans le temps réglementaire. Réponse C, elle était menée à la mi-temps de la finale 3-0, elle a finalement gagné, elle est revenue à 3-3 et elle a gagné au tir au but.
Ça, c'est une autre équipe.
Et réponse D, eh ben, je n'ai rien mis. Donc, ce n'est pas la réponse D.
Et réponse B, c'est la Grèce, non?
La réponse B, ce n'est pas la Grèce, c'est le Portugal en 2016.
Ah oui, c'est le Portugal.
Qui gagne en prolongation. Ils font 3 matchs nuls. Et après, on s'en fout.
Après, on s'en fout.
Donc, c'est
la réponse A. Le Danemark n'était pas du tout qualifié pour 7 euros. Et la Yougoslavie a été disqualifiée à cause des guerres de Yougoslavie. Du coup, le Danemark, ils arrivent 2 semaines avant. Ils sont repêchés parce qu'ils étaient deuxièmes dans le groupe qualificatif.
Et toute l'équipe est en vacances.
Ils sont là en vacances. Ouais, ils n'ont pas leur meilleur joueur qui s'est embrouillé avec le sélectionneur. Mais que Laudrup s'est embrouillé. On pourrait en faire un EPO. C'est incroyable. Ils arrivent, ils perdent contre. En plus, c'est en Suède. Donc, c'est vraiment chez les ennemis.
Alors, tu nous fais un épisode là, c'est ça?
Non, mais je vous le dis vite fait. Et du coup, ils arrivent à se qualifier parce que dans le troisième match, ils battent la France, qui était pourtant favorite.
Et, oui, voilà.
La France et ensuite, ils battent les Pays-Bas de Papin.
Du général de Gaulle.
La France du général de Gaulle.
Et
ils battent quand même. Ils battent en finale les Allemands. Voilà, bref. Les JO 56, Sarah nous en parlait. C'est le waterpolo. C'est la baston de waterpolo entre la Hongrie et l'URSS. Intéressant de noter que ces JO en 56 n'ont pas été de tout repos. La charte olympique, l'ensemble des règles instaurées par Pierre de Coubertin, a été bafouée. Mais pour quelle raison elle a été bafouée? Une loi australienne ignorée par la CIO lors de l'élection de Melbourne en 49 impose une quarantaine de 6 mois pour tous les Néo-Zélandais entrant dans le pays. Du coup, pas de compétition pour tous les Néo-Zélandais. Une loi australienne ignorée par le CIO lors de l'élection de Melbourne en 49 impose une quarantaine de 6 mois pour tous les chevaux entrant dans le pays. Du coup, pas de compétition avec des chevaux dedans. Une loi australienne ignorée par le CIO lors de l'élection de Melbourne en 1949 impose une quarantaine de 6 mois pour toutes les femmes entrant dans le pays. Du coup, pas de compétition avec des femmes dedans. Ou tout simplement, une loi australienne ignorée par le CIO lors de l'élection de Melbourne en 1949 impose une quarantaine de 6 mois pour tous les justes au corps entrant dans le pays. Du coup, pas de compétition avec de la gymnastique dedans.
Oui,
les chevaux.
Tout à fait. À noter que du coup, ils ont fait une compétition, une autre compétition à Stockholm pour juste l'équitation.
Ah, génial.
Voilà, en juin 56. Et voilà, et puis j'avais une dernière question. Quel joueur légendaire a pris sa retraite cette saison? Est-ce que c'est Iker Casillas, la légende gardien espagnol, champion du monde et d'Europe? Est-ce que c'est l'attaquant légendaire de Bundesliga, Mario Gomez? Est-ce que c'est le légendaire milieu de terrain du FC Barcelone, Xavi? Ou est-ce que c'est Florent Balmont? Vous l'aurez compris.
La réponse est dans la question.
Merci beaucoup, Olivier, pour ce questionnaire truculent et inventif.
Et pour finir l'année en beauté, musique.
Les cadeaux. Comme il n'y avait pas Mickaël, on aurait pu inviter le Père Noël d'ailleurs.
C'est vrai, peut-être qu'il aurait accepté de venir.
Joyeux Noël, Sarah.
Joyeux Noël, Olivier.
Joyeux Noël, Thibaut.
Joyeux Noël, Chloé.
Joyeux Noël, les garçons.
Alors, on va se dire que 2020, c'est presque fini.
Enfin,
c'est bon là, on arrive au bout.
On était quand même très heureux de partager cette année avec vous, malgré les quelques aléas rencontrés. Et on a surtout très hâte de vous retrouver en 2021.
Eh oui.
Oui, c'est ça. Oui.
On est très heureux, Younes.
Oui. On sera tous vaccinés.
Yeah. En attendant, je vous propose, pour bien finir l'année, d'écouter les autres podcasts de Fréquence Moderne.
Oui, tout à fait.
Par exemple.
Relire Tintin.
Oui, par exemple.
Et surtout relire Tintin.
Par exemple, Culture 2000.
Ah oui.
Eh oui.
2 heures de perdu.
Oui, ou 20 minutes avant la fin du monde. Allez, un très joyeux Noël à tous, une très belle année et on vous souhaite plein de bonheur pour 2021.
On vous
aime. À l'année prochaine.
À bientôt. The P. With non-figures, real niggas, fingers on nickel-plated non-triggers. Must see my enemies defeated. I catch them while they coked up and weeded. Open fire, now them niggas bleeding. See me in flesh and test and get your chest blown. Straight out the west, don't get blown. My adversaries cry like hoes, open and shut like dope. Is you a friend or foe? Nigga, you ain't know. They got me stretched out on death row. I seen money, but baby, I got to get more. You screaming, go to pop, and I ain't stopping till I'm well paid. Bills paid now, nigga, look what hell made. Visions of cops and sirens. Niggas open fire, bunch of thug life, niggas on the ride. Until
tales of eyes, and you'll never realize. Begin words at least square motherfuckers with nerves saying they can get with us, but picture me getting served. My own mama say I'm thugged out. My shit be popping out the record store as if it was a drug house. My lyrics bang like a creep of blood. Nigga, what? It ain't nothing but a party when we thug. And there I was, a young nigga with hearts. Ain't shit to lose. Pulling my pistol on the fools. You know the rules. DRE, you got me heated. My words like a penitentiary dick. Hitting bitches when it's most needed. Money and weed. Out of say and Tennessee. To my thug niggas in lockdown. On these hoes and floss mode, the life of a boss player. Fuck what you thought though. My enemies deceased. Die like a bitch when my album hit the streets. Niggas can't see me. Dip, did it, did it, did.
Everything you read, Alizé and weed.